Bienvenue dans notre podcast réalisé avec la Chambre des notaires du Bas-Rhin. Avec nous, Maître Laure Hilt-Maria.
Bonjour.
Bonjour. Pour parler de la protection des personnes vulnérables.
C'est ça.
En parlant des personnes vulnérables, on pense à nos proches qui, avec le grand âge, peuvent un jour souffrir d'une perte d'autonomie. Mais il n'y a pas que les personnes très âgées. Maître Hilt-Maria, qui sont les personnes vulnérables ?
Non, alors dans les personnes vulnérables, on a toutes les personnes qui sont dans l'impossibilité de pourvoir à leurs intérêts, d'accord, qui ne sont plus en mesure de pourvoir à leurs intérêts. Alors en raison notamment, je vous donne trois exemples, une précarité économique, un âge ou un état de santé. Voilà. Donc ça ne concerne pas que les personnes âgées stricto sensu.
Les outils juridiques dépendent en fait du niveau de vulnérabilité de la personne ?
Oui, donc si nous prenons les trois mesures principales, donc on a la sauvegarde de justice, mesure la plus légère. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont besoin d'une assistance provisoire, d'accord ? Ou alors, un requérant a fait une demande placement sous tutelle et curatelle, et de manière transitoire, le juge place le majeur sous sauvegarde de justice. On a ensuite la curatelle. Donc la curatelle, c'est pour une personne qui a besoin d'être assistée dans ses actes de la vie quotidienne. Ça repose, oui, sur le mécanisme de l'assistance. Et ensuite, nous avons la tutelle. Donc là, le majeur est restreint dans sa capacité juridique. C'est le tuteur qui accomplit tous les actes de la vie civile.
Alors, prenons des cas concrets. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça va être quel outil juridique pour cette personne ?
Alors, principalement, alors je parlerai plus du cas d'Alzheimer auquel on peut être confronté dans notre métier. C'est très souvent un placement sous tutelle. Voilà. Et du coup, nous, on est confrontés donc à des ventes, notamment. Donc, les ventes nécessitent toujours l'intervention du tuteur avec l'accord préalable du juge des contentieux de la protection des majeurs.
Vous m'avez dit, ça peut dépendre du juge également.
Oui, les mesures, lorsqu'on présente une demande pour placer quelqu'un sous mesure de protection, donc vous avez la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, il faut à chaque fois donc faire la requête accompagnée d'un certificat médical, d'une audition ou non de la personne à protéger. Donc tout ça après relève d'une appréciation on va dire du juge eu égard à des éléments objectifs de professionnels intervenants.
Et pour une personne trisomique ?
Alors, si la trisomie est lourde, mais je ne suis pas médecin, c'est difficile de se prononcer, mais ce serait plus la tutelle, en tout cas dans les actes qui touchent à son patrimoine, je pense.
Oui, parce que chaque fois, ce dispositif est décidé avec un juge des tutelles et avec l'accord d'un médecin ?
Il faut présenter un certificat médical circonstancié à chaque fois, ce qui permet de protéger la personne et de ne pas pouvoir être sous une mesure de protection juste à la demande d'un requérant.
Ce qu'on retient, c'est que la tutelle, c'est la mesure la plus contraignante. En quoi c'est
tout à fait ça ? Alors, elle est plus contraignante. Déjà, elle dure plus longtemps. On a la sauvegarde de justice qui dure un an par principe. La tutelle dure et fixée pour une durée maximale de 5 ans. Et quand on voit que l'état, de santé de la personne à protéger ne s'améliorera pas, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Voilà. On a le majeur qui sera dessaisi de ses droits. Il n'aura plus de capacité juridique. D'accord ? Il y a des actes qu'on appelle d'administration qui seront faits par le tuteur seul ou avec accord du juge, accord préalable, et les actes de disposition qui sont toujours validés par le juge.
Et donc avec la mise en place de ces dispositifs, donc vous l'avez dit, curatelle, tutelle, sauvegarde de justice, est-ce que le rôle de la famille est important ?
Alors le rôle de la famille est important effectivement, la loi prévoit expressément d'ailleurs l'intervention de la famille dans la qualité de curateur ou de tuteur. Donc on a en premier lieu peut-être nommé une personne qui a été désignée par le majeur lui-même. Ensuite, on a les conjoints, les partenaires pacsés, les concubins, les ascendants, les descendants, les personnes qui résident avec ce majeur ou qui entretiennent des liens étroits avec lui. À défaut, on a le mandataire judiciaire.
Parfois, c'est difficile à faire accepter par la personne qui va être mise sous tutelle, car elle sait que c'est contraignant. C'est ça aussi ?
Alors, toutes ces mesures qu'on a citées peuvent effrayer. Une certitude, il faut bien comprendre en amont qu'il en va de l'intérêt de la personne à protéger, de la mettre sous assistance ou sous représentation pour éviter l'abus frauduleux d'un état de faiblesse, qu'il soit permanent ou temporaire.
Oui, c'est vraiment pour éviter des situations délicates ou même des délits, hein, comme vous l'avez dit, oui. L'abus de faiblesse.
C'est tout à fait ça. Donc à chaque fois, effectivement, il faut bien reprendre. On a une procédure qui se met en place, une requête à faire auprès d'un juge, accompagné d'un certificat médical, parfois d'une audition de la personne. On a des missions d'assistance ou de représentation définies par la loi et par le juge. On a des comptes annuels de gestion à rendre pour vérifier que tout est tenu correctement. Donc oui, je considère que c'est des mesures qui encadrent bien et qui protègent la personne à protéger.
Et on peut donner quelques cas concrets, enfin, de grandes différences de droit entre tutelle et curatelle ?
Alors, par exemple, prenons... la réalisation d'un testament, par exemple. Une personne qui est sous curatelle peut rédiger elle-même son testament et peut le révoquer librement. Une personne qui est sous tutelle, en revanche, alors si le testament a été réalisé avant, il n'y a aucun souci, il reste valable. Pendant la période de tutelle, il faut l'accord du juge. À défaut, le testament est nul de plein droit. Donc ça, voilà. Et il peut le révoquer en revanche seul, sauf que nous, en tant que notaire, on ne doit pas lui restituer son testament, il doit en faire un nouveau. Autre exemple...
Sur le mariage
Sur le mariage, par exemple. Donc ça, c'est une nouveauté de la loi du 23 mars 2019. Donc on n'a plus à obtenir l'accord du tuteur ou du curateur. Donc là, la solution est identique. La seule chose, il faut les informer préalablement du mariage.
Pour les donations ?
Alors, pour les donations, un majeur, partant du principe que c'est le majeur protégé qui veut faire une donation. Donc, sous curatelle, il faut l'assistance de son curateur uniquement. Sous tutelle, il faut, bien entendu, l'aval du tuteur, mais sur accord préalable du juge. Et le majeur qui reçoit une libéralité... il peut la recevoir, si c'est une libéralité qu'on appelle sans charge, c'est-à-dire je me contente de vous donner quelque chose sans vous mettre une charge, là on a besoin uniquement du tuteur ou de curateur. Avec charge, on a besoin de l'accord du juge. Pour accepter ce qu'on appelle un legs universel, on a besoin de l'accord du juge également.
Il y a une autre mesure plus récente qui date de 2016, c'est l'habilitation familiale. Quel est l'intérêt de cette mesure ?
Entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Donc l'habilitation familiale, elle repose sur une entente familiale. Le requérant doit être un proche, donc ascendant, descendant, frère, sœur. S'il y a une union, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin et la personne habilitée est également un proche. Voilà. Et la mesure, c'est beaucoup plus léger dans l'exercice des pouvoirs d'assistance ou de représentation fixés par le juge. Et là encore, on n'a pas besoin de compte annuel de gestion, d'accord, à rendre devant le juge.
C'est une mesure qui
c'est vraiment familial.
Oui.
Alors ça se développe, mais pour ma part, j'en vois encore peu.
D'accord. En tout cas, ça nécessite un consensus familial. Il n'est pas toujours
tout
là.
Tout à fait. Et de bonnes relations.
Et comment sécuriser au mieux le patrimoine de la personne vulnérable ?
Alors, le patrimoine est une notion assez large, mais si on prend des exemples, premier lieu, le logement. Donc, on ne peut pas chasser une personne vulnérable de son logement. Hein. Et dès lors qu'on veut faire un acte de disposition sur ce logement et le mobilier qu'il garnit, il faut l'autorisation du juge pour la vente, pour la conclusion d'un bail ou la résiliation d'un bail.
Voilà. La voiture ? Qu'est-ce qu'on en fait ?
La voiture. Alors, la voiture, pour la céder en curatelle, il faut l'accord de la personne protégée et de son curateur et le juge lorsqu'on est sous tutelle. Alors, ce qui nous concerne aussi, c'est la souscription d'un emprunt, par exemple, immobilier. Donc là, pareil, sous curatelle, c'est la personne protégée plus le curateur. Sous tutelle, c'est l'accord du juge. Voilà. Idem pour des ouvertures de compte dans la banque habituelle. C'est le même fractionnement, curateur plus personne protégée sous curatelle et accord du juge sous tutelle.
Et pour assurer des revenus à la personne vulnérable, dans quelle mesure il est intéressant de procéder à un démembrement de sa propriété ?
Alors, le démembrement de propriété, donc déjà, il est mis en place soit après une vente, une acquisition en démembrement, ou alors après donation, avoir reçu ou donné un bien. Donc, si partant du principe que la personne protégée est usufruitière, donc là encore, elle n'est pas propriétaire du bien, mais elle en a la jouissance. Donc, elle peut y rester jusqu'à son décès. Elle peut louer le bien à usage d'habitation et percevoir les revenus. Voilà. Donc ça, elle peut le faire seule. Ensuite, fiscalement, c'est assez intéressant puisque partons de l'hypothèse où c'est le majeur qui donne un bien immobilier avec autorisation adéquate. Au terme de cette donation, il se réserve l'usufruit et donc au décès de la personne protégée, l'usufruit s'éteint et la pleine propriété revient au nu propriétaire.
Donc,
qui devient plein propriétaire.
Oui, fiscalement, c'est intéressant.
Ça peut être intéressant puisque l'usufruit a une valeur. Donc, lorsqu'on donne, on prend la valeur vénale du bien, on diminue cette valeur de la valeur de l'usufruit. La valeur de l'usufruit n'est pas reprise en compte au décès de la personne protégée.
Merci beaucoup, Maître Laure Hilt-Maria, pour tous ces éléments de
réponse. Je vous en prie.
Sur la protection des personnes vulnérables.
Merci à vous.
Merci
beaucoup.